France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est un de ces personnages du cinéma français que tout le milieu connaît et que le public reconnaît parfois à l'écran comme s'il lui était familier. Un gars de la grande famille du 7e art, mais qui marche à côté, sur les plates-bandes. Il a joué avec Paul Vecchiali, Carven et Delépine, écrit pour Judith Godrèche et Mathilde Seigné, et a réalisé un film intitulé « Ceci est mon corps », resté plus de 5 ans à l'affiche dans les cinémas de l'Hexagone, battant ainsi un drôle de record. Le film fut qualifié par France Culture de phénomène inventif, joyeux et revigorant, écrit et réalisé librement sans le système et qui raconte une quête de liberté. Il vit à Montreuil, au milieu de ses camarades du spectacle, et rien, a priori, dans sa vie, sa famille ou son travail, ne le prédisposait à se retrouver pris dans une drôle d'affaire, triste et gaie, avec des soirées dansantes endiablées où des vieilles dames très dignes prennent leur revanche sur les années, des machines à sous, un notaire peu regardant et un directeur de casino encore moins scrupuleux. On écoute tout de suite Jérôme Soubéran avec sa sœur nous raconter cette histoire vraie de la vieille dame et le casino, où on se demandera ce que font nos vieux parents de leur argent, s'il leur appartient vraiment et à quel moment il faut se mêler de ce qu'ils en font. Reportage Anna Benjamin.
Je m'appelle Jérôme, j'ai passé la soixantaine, je suis scénariste, comédien et réalisateur. J'habite à Montreuil et je suis originaire de l'Ardèche. Je suis vraiment 100% ardéchois. Mes deux parents étaient ardéchois, mes quatre grands-parents, mes huit arrière-grands-parents. Voilà, je suis un ardéchois pur cru, d'une famille très modeste. Alors je lis beaucoup de littérature féministe en ce moment et je redécouvre la vie de ma mère dans la difficulté de ce que ça devait être d'être une femme dans les années 60, dans un monde très machiste. Avant ma naissance, elle travaillait, elle était indépendante, elle était secrétaire. Et puis à ma naissance, elle a plus travaillé, elle s'est retrouvée dépendante de mon père, dépendante financièrement, dépendante à tous les niveaux. Elle était très très belle, elle avait un fort caractère, mais qui a mis du temps à pouvoir s'exprimer, j'allais dire pleinement, c'est-à-dire il a fallu qu'elle se sépare de notre père pour vivre enfin sa vie, en fait, quoi. Elle a vraiment commencé à vivre sa vie à la séparation, donc elle a commencé une deuxième vie d'indépendante, quoi. Elle a été encore plus indépendante à la retraite. Elle vivait relativement confortablement. Son père est mort et son père avait quelques biens. Et on ne sait pas du tout quel héritage elle a reçu de son père. Ce qu'on sait, c'est que son père n'était pas riche, mais avait vécu très confortablement. Il avait eu une affaire. Il était président des cafetiers de l'Ardèche. Il avait vendu son café. Il avait une maison. Il avait voilà. Donc, on sait qu'elle a hérité d'une des maisons de son père, et on sait aussi qu'il y avait des choses dans le coffre, des louis d'or, des choses comme ça. Mais elle nous a jamais dit la réalité de ce qu'il y avait, quoi. Elle avait épousé les codes de la bourgeoisie, et le code numéro 1 de la bourgeoisie, c'est qu'on ne parle pas d'argent. Donc on ne parlait pas d'argent. Mais on avait l'impression que ça allait, on ne se faisait pas de soucis pour elle. Elle avait sa voiture, son appartement. À un moment, elle avait 3 appartements, donc on ne se faisait pas de soucis, quoi. Elle parlait beaucoup de ses promenades. Elle était très fière d'aller à pied du centre-ville jusqu'au lac et de faire un petit tour au lac et de revenir. Donc ça faisait 2 ou 3 heures de marche. Elle se vantait de ça là jusqu'à récemment. Elle nous a amenés jusqu'au lac en voiture. Elle se débrouillait très très bien. C'était vraiment... elle paraissait autonome de l'extérieur, quoi. Et c'est sans doute ça qui nous a leurrés, ma sœur et moi, dans les derniers temps. C'est qu'elle revendiquait tellement de son indépendance qu'elle nous a donné ce fantasme de l'indépendance. Et les derniers temps, elle était certainement beaucoup plus dépendante que nous ne le pensions. À partir du Covid, on a identifié que notre mère commençait à aller moins bien. Elle perdait le sommeil, elle nous en parlait. Et là, elle a décliné vraiment très vite en 2 ans. Et on voyait qu'elle commençait à avoir des pertes cognitives, tant et si bien qu'il y a 1 an, j'ai commencé à dire à ma sœur, comme c'était elle la plus proche, j'ai dit, il faudrait que tu vois si on ne pouvait pas la mettre sous curatelle ou tutelle. Alors notre mère est décédée le 7 décembre 2023. Elle avait 87 ans. Elle est morte dans la nuit. J'ai été prévenu en début d'après-midi par ma sœur. Dès que je l'ai appris, j'ai fait une valise et je suis descendu. Je suis arrivé vers minuit, le corps avait été enlevé, il était aux pompes funèbres. J'avais rendez-vous aux pompes funèbres le lendemain matin à 9h et je devais amener ses papiers d'identité. Donc j'ai ouvert un bureau le matin en me levant pour chercher sa pièce d'identité. Et la première chose que j'ai trouvée dans ce bureau, c'est le compromis de vente en viager de l'appartement. Donc là, ça a été un petit choc à ce moment-là. Et j'ai d'abord pensé que c'était une étude qu'elle avait fait faire, dont elle nous avait parlé, puisqu'elle nous avait dit qu'elle n'avait pas fait. Donc j'ai commencé à me dire, bon, ben, ça doit être des vieux papiers. Et puis, en revenant des pompes funèbres... Enfin, j'ai quand même appelé ma sœur pour dire je crois qu'elle a vendu en viager, mais j'étais pas vraiment pas sûr de moi. Et quand on est revenu des pompes funèbres, ma sœur est arrivée, elle a voyagé de nuit, et on est allé aux pompes funèbres ensemble. Et puis quand on est revenu, on a épluché ce truc-là et on a bien vu que c'était vraiment une vente réelle, quoi. Voilà. D'abord, c'est la sidération, c'est-à-dire qu'on n'en revient pas. Il y a presque du déni, puis ça met du temps à qu'on comprenne que c'est vrai. Et là, bah, c'est une espèce de grande colère, quoi. Avec ma sœur, on s'est retrouvés, mais très en colère, parce que comme si on se sentait trahi, comme si on se sentait trahi par elle d'abord. La colère a d'abord été contre elle. On est resté une semaine avec ma sœur et mon beau-frère dans cet appartement et on découvre que les comptes bancaires sont vides. Et à un moment donné, je me suis dit quand même, j'ai un copain avocat, je vais l'appeler. Et je lui dis en deux mots et lui, il me dit, mais prends rendez-vous avec la notaire du vendeur et demande-lui s'il y avait un médecin au moment de la signature pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus de faiblesse. Et donc la notaire du vendeur nous a reçus. Et en fait, la seule chose qu'on lui a demandé, c'est est-ce qu'il y avait un médecin ? Voilà. Et j'étais très froid dans la manière de lui demander. Et là, elle a eu un moment de solitude. Elle a vraiment eu un moment de solitude et elle s'est raccrochée à son ordinateur. Elle n'était pas à l'aise du tout. Et à un moment donné, elle a repris la main en faisant pleurer ma sœur, en lui disant « Mais votre mère ne voulait absolument pas que ses enfants soient au courant. » Du coup, la tonalité de l'entretien a changé. Mais j'ai eu l'info qu'il n'y avait pas de médecin lors de la signature.
Je m'appelle Sylvie, j'ai 54 ans, je travaille dans le secteur médico-social et je vis à Perpignan. J'ai été prévenue du décès par le médecin urgentiste qui a constaté son décès. Et c'est lui qui m'a appelée. J'ai attendu que mon mari finisse sa journée de travail, puis on a pris la route dans la nuit. L'idée, c'était qu'on arrive à 8 heures donc chez ma mère pour rejoindre mon frère. Et là, mon frère m'appelle. On n'était pas encore arrivés à une demi-heure de route. Et là, il m'annonce... qu'elle avait vendu en viager, et depuis 2 ans. À moi, ça a été un véritable choc. Parce que, pour moi, que ma mère me mente, c'était du jamais vu. Enfin, elle me disait tout, donc il n'y avait absolument aucune raison. Donc là, j'étais sidérée, en fait. Hein. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Ma mère, comme elle vivait seule, elle cherchait à rencontrer un homme, elle en a rencontré d'ailleurs, elle a eu des hommes dans sa vie, que je lui ai connus aussi. Et bon, elle me donnait beaucoup de détails, des fois des choses qu'une fille n'a pas forcément envie d'entendre, hein, sur son rapport aux hommes. Voilà, donc pour moi, ma mère me disait tout, c'était même sans filtre. Elle me disait tout, sauf que sauf ce qu'elle a fait. Dans ces 2 dernières années, quoi. Sauf que quand elle a vendu en viager... L'histoire du viager, moi, elle m'en avait parlé juste avant le Covid, qu'elle en avait l'idée, et elle voulait un petit peu voir comment j'allais réagir. Moi, j'ai tout mis en œuvre pour lui dire d'attendre. Parce qu'en fait, au début, je ne comprenais pas pourquoi elle voulait vendre en viager, étant donné qu'elle avait d'autres biens, et qu'elle n'était pas à la rue pour moi. Donc, ce qu'elle me disait, qui m'a fait comprendre sa démarche, c'était qu'elle ne se voyait pas du tout vivre en maison de retraite. Et elle avait conscience que pour avoir des aides à domicile, eh bien ça, il fallait avoir quand même beaucoup de revenus. Mais je l'en ai dissuadée, parce que moi, je pensais qu'elle avait largement les moyens, en fait, du fait des biens qu'elle avait. Voilà, donc on en est resté là, et elle m'a dit qu'elle y renonçait. Donc moi, j'ai réellement cru qu'elle y avait renoncé. L'idée, c'est de comprendre. Comprendre tout ce que j'ai pas vu venir, quoi, de ma mère. Bon, d'abord, j'ai eu la colère, hein, la colère contre elle, parce que je me suis dit, mon Dieu, elle qui me disait tout, qu'est-ce qui fait qu'elle m'ait menti? Qu'est-ce qui fait qu'elle ait pas pu me le dire? Alors qu'en plus, quand je lui avais dissuadé, je lui avais quand même montré que je comprenais sa démarche, que je comprenais qu'elle ait peur pour ses vieux jours. Donc, il n'y avait aucune raison qu'elle me mente. Donc oui, moi, là depuis 4 mois, c'est comprendre, vraiment comprendre sa vie, comprendre ce qui m'a échappé. Parce qu'on a compris qu'elle avait une bonne retraite. Parce qu'en fait, elle avait cotisé à plein de caisses complémentaires. Donc, elle avait 2000 euros de retraite. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle n'avait plus d'argent sur ses comptes, qu'elle avait vendu ses biens et que, pouf, l'argent s'est volatilisé. Elle avait 2 appartements. Donc, il y en a un qui a été vendu dans sa ville d'origine. Il n'y a aucune trace. Le deuxième, il n'y a aucune trace non plus. Comment elle a pu dépenser autant d'argent alors qu'elle ne dépensait pas beaucoup d'argent. Moi, j'ai toujours vu ma mère, depuis toujours d'ailleurs, hein, rentrer chez elle quand on sort en ville faire les courses, de noter toutes ses dépenses au centime près. Donc, elle a toujours fait attention à ses dépenses. Donc, le mystère, il est intact. C'est qu'est-ce qu'elle a fait de son argent? Alors, bon, il y a bien cette personne, elle avait une personne... qu'elle connaissait depuis 20 ans, que je connaissais, qui était sa magnétiseuse. Elle lui faisait office de médecin, hein, cette personne, hein, quelque part. Surtout depuis que son propre médecin était parti à la retraite, il y a une dizaine d'années, voire plus, hein, peut-être 15 ans. Et cette personne, c'était une dame qui faisait du magnétisme, qui l'aidait pour du ménage, qui est un peu des choses, voilà, qui lui servait pour comprendre un peu comment marchait le téléphone, sa petite tablette, parce qu'elle avait une petite tablette, voilà. Et moi, en avril dernier, je lui ai vu remettre en main propre 500 euros d'espèces dans les mains de cette dame, et là j'ai pris peur. Et puis, en rentrant chez moi, j'ai commencé à prendre des renseignements sur comment on met une personne sous tutelle, curatelle. Enfin, j'ai commencé à prendre des renseignements, quoi. Et puis, j'ai vu que c'était le parcours du combattant quand on vivait à 700 km de là. Hein. Ça, c'est pas possible. Il faut faire les démarches sur place. Moi, je suis pas en bonne santé. Moi, je gagne pas ma vie. Moi, j'ai que mon mari. Et elle me laisse sans héritage. Et on aurait pu avoir un héritage. Enfin, je veux dire, elle a eu l'héritage de son père. Elle a été heureuse d'avoir eu l'héritage de son père, qui lui a permis de vivre peut-être un peu plus aisément, d'avoir des appartements, des biens, de ne pas être dans le stress de mal vivre. Voilà. Et voilà comment ça finit. Moi, carrément, j'estime que notre héritage a été détourné, en fait. Ben, du coup, j'ai appelé toutes ses amies, toutes ses anciennes amies. Il y avait 2 amies avec qui elle a fait des cures pendant plus de 20 ans. Hein, c'était 2 copines célibataires, des divorcées, avec qui elle faisait la fête, vraiment. C'est-à-dire danser, sortir tous les soirs, voilà. C'était la grande passion d'aller rencontrer des hommes, s'amuser. Et moi, j'avais vraiment conscience que ma mère, pour moi, elle allait danser au casino pour rencontrer un homme qui avait de l'argent. Ah, moi, ça, j'en avais toujours conscience, par contre. Mais je pensais que ça s'arrêtait là, en fait. Hein. Et elle a eu des hommes qui ont eu de l'argent. Et c'est là que je commence à comprendre et à réaliser, eh ben, en fait, qu'elle a beaucoup joué. Ces 2 amies, alors il y en a une, elle était dans le déni, mais bon, à 95 ans, avouer qu'elle a eu une vie de fêtarde alors qu'elle vit chez sa fille, bon, j'ai pas insisté, mais j'ai bien senti que c'était compliqué pour elle de m'avouer les choses. Mais l'autre, elle en avait une autre qui, elle m'a parlé, mais elle m'a même devancée. Elle m'a raconté à plusieurs reprises à quel point ma mère jouait énormément. Et c'est elle qui m'a fait ouvrir les yeux. Et je la remercie, vraiment, je la remercie de son... J'en ai l'émotion à l'aide de vous le dire. Je la remercie de son témoignage, parce que si elle ne m'avait pas témoigné de ça, moi, j'aurais encore du doute, je serais encore dans l'incompréhension de la situation, et je peux vous dire que pour faire mon deuil, ce n'est pas simple. Et je la remercie, c'est elle qui me permet d'avancer, de mieux comprendre, de faire le pulse, là, de comprendre ma mère, vraiment. Elle m'a dit qu'elles allaient au casino tous les soirs, qu'elles allaient y boire des verres, qu'elles allaient y danser et qu'elles allaient aux machines à sous. Et qu'elle, elle l'a laissé parce qu'elle ne pouvait pas suivre financièrement, donc elle laissait ma mère. Mais elle m'a dit, ta mère, elle dépensait des sommes folles, des sommes folles. Elle y allait trois soirs par semaine au moins. Elle disait, moi, j'arrivais pas à suivre, alors qu'on avait le même niveau de retraite. Quand j'ai pris son portable pour appeler toutes ses amies pour prévenir de son décès, c'est là que je me suis aperçue qu'elle avait quasiment aucun message personnel de ses amies, hein, puisqu'elle les voyait de visu ou qu'elle les appelait au téléphone. Par contre, tous les SMS qu'elle recevait quasiment, c'était le casino. Tous les jours quasiment. Donc là, le 5 décembre, message du casino. Le 31 décembre approche. Le casino vous a préparé une soirée inoubliable. Profitez d'animations entre 16h et 1h du matin. Des spectacles, cabarets, des buffets de fêtes, des distributions de cadeaux et une balloon party géante à 1h du matin. Tout ça, bien sûr, gratuit. Alors, le 8 décembre, pareil, grand marché de Noël au casino. 13 décembre, la même chose. Le 15 décembre, le 21 décembre, le 21 décembre, deux SMS le même jour. Grand jeu de Noël au casino, dans le hall, etc. Invite casino, voilà. Mais ça continue, hein, elle est décédée, ça continue, on n'a pas fermé. Vous voyez, donc tout se passe au casino en fait. J'imagine qu'elle était ravie de recevoir ces messages parce que c'était l'occasion de sortie pour elle, d'accord ? Que ce soit un cocktail, une fête, d'aller un peu avec du monde, là où il y a du monde. Voilà. Moi, j'appelle ça du harcèlement. C'est là que je me suis dit qu'elle avait forcément dépensé l'argent de biens, des biens qu'elle avait. Et quand je réalise que dans toutes les villes où il y a des cures, il y a un casino, et généralement des villes de cures, des villes thermales, c'est des petites villes, et il y a un casino. Et ma mère adorait danser, guincher. Ben, où on fait ça, à part le casino? Je vois pas, hein, dans ces petites villes, il n'y a pas d'autres lieux. Et dans toutes les villes où j'ai été avec elle, j'ai réalisé qu'on allait à chaque fois boire un verre au casino. Mais à chaque fois, systématiquement. Pas forcément aux machines à sous, mais à chaque fois, c'était le casino qu'elle choisissait quand même. Et puis, j'ai repensé à toutes les fois où nous sommes allés jouer aux machines à sous. Je me suis même souvenue que la première fois qu'elle m'a initiée aux machines à sous, j'avais une petite vingtaine à Biarritz. Mais j'étais loin de m'imaginer qu'elle y jouait très souvent.
Alors, aujourd'hui, ma maman est un mystère. Il y a la maman que j'ai connue quand elle était vivante et il y a la maman que je découvre depuis qu'elle est morte. C'est vrai qu'il y a un peu de culpabilité de notre part de ne pas avoir vu, mais on se sent complètement désarmé avec ma sœur. Moi, que je n'ai pas vu, je n'étais pas hyper proche, donc ça peut s'expliquer que c'était facile de me dissimuler tout ça. Mais ma sœur, tous les jours, elle avait au téléphone, elle n'a rien décelé. Alors après, on repasse plein de choses dans la tête, quoi. Ma dernière fille, quand elle avait 9 ans, elle avait passé une semaine chez elle, et quand je l'avais ramenée en voiture, elle était très très fâchée contre sa grand-mère parce que sa grand-mère avait voulu aller au casino et n'avait pas pu rentrer à cause d'elle. Et elle lui avait reproché pendant tout le séjour. Pendant tout le séjour, elle lui avait dit tous les jours, ah ben, à cause de toi, je ne peux pas aller au casino. Voilà, donc après coup, on se repasse des choses, on essaye de comprendre. Est-ce qu'elle a toujours été joueuse compulsive? C'est pas sûr, elle a dû avoir des périodes où elle jouait. Et on peut tout perdre. Moi, j'ai un copain, quand j'ai écrit ça, mon pote... Il me répond SMS, j'ai un copain, sa mère a perdu son appartement dans lequel elle vivait en une nuit. Il me dit, c'est le western. Mais c'est ça, c'est-à-dire que les seniors addicts au jeu et au casino, de ce que j'ai lu, c'est essentiellement des veuves. Il y a beaucoup de veuves. Alors, ma mère n'était pas veuve, mais elle était divorcée. Elle était seule, quoi. Mais il est fort probable qu'elle ne jouait plus ou très peu depuis 2 ans. Parce qu'effectivement, on n'a pas trouvé sur les comptes de grosses dépenses comme ça. Et il n'y a déjà plus rien sur les comptes, en fait, il y a 2 ans. Donc, sur le contrat de viager, on était obligés, nous, les enfants, et on était nommés dans le contrat de viager, de débarrasser l'appartement dans les 3 mois. Donc au mois de février, on est allé débarrasser l'appartement. Je suis arrivé 24 heures avant ma sœur. Et le lendemain, on est en train avec ma compagne de commencer à faire des cartons. Et l'interphone sonne. J'hallucine, je décroche. Bonjour. Et en fait, c'est l'acheteur de notre mère, le directeur des machines à sous du casino. Et je lui dis, mais comment vous savez que je suis là? J'aimerais vous rencontrer. Bon, ben montez, je l'ouvre. Il monte au cinquième étage, je le reçois sur le palier. Et là, il me fait un numéro, mais... vraiment un mauvais comédien qui m'a fait des mensonges dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il ne connaissait pas ma mère avant. Il est directeur des machines à sous du casino depuis 20 ou 30 ans. Donc évidemment qu'il la connaissait, évidemment que c'est là qu'il a connu. Mais ce type-là qui se fait 300 000 euros net dans l'opération, il a mis 50 000 euros. 2 ans plus tard, il récupère 350 000 euros. Mais qu'il ait eu au moins la dignité de disparaître de ma vie, de ne pas exister, quoi. Pourquoi elle a vendu ce viager au directeur des machines à sous du casino? Je ne sais pas. Alors j'ai porté plainte contre X pour abus de faiblesse en bande organisée. Parce que je considère qu'il y a 4 personnes directement qui ont abusé de ma mère dans cette situation de viager. Il y a l'acheteur, il y a la notaire de l'acheteur, la notaire de ma mère qui ne l'a absolument pas défendue. Et puis il y a le type qui fait le viager. Dans l'appartement, donc on a retrouvé aussi, elle aimait beaucoup les anges. Donc il y avait plein de petits anges un peu partout, des figurines, quoi. Et sous tous les anges, il y avait des petits mots, mais écrits tout petits, enfin des petits bouts de papier ou des petits bouts de carton sur lesquels il y avait « Je gagne de quoi m'acheter un appartement à Cannes. Je gagne de quoi m'acheter ceci. Je gagne de quoi cela. » Alors des choses de santé aussi, « Je suis en bonne santé » ou des choses... Enfin, je ne sais plus... On les a bêtement jetés, mais parce que à un moment on était tellement en colère, on voulait faire du tri, on voulait tout jeter. Ça, je regrette vraiment d'avoir jeté tous ces petits mots parce que c'était de son écriture, c'était manuscrit et c'était tellement naïf en même temps. Il y avait quelque chose de tellement naïf et tellement c'était comme une enfant, une petite fille. Enfin, je sais pas. C'était et du coup, je me suis mis à mesurer la solitude profonde dans laquelle vivait notre mère, quoi. Qu'elle nous cachait, elle ne s'est jamais plainte de solitude. Au contraire, elle revendiquait son indépendance. Et nous, on l'a cru, bêtement, on l'a cru, on n'a pas fouillé, on n'a pas... Ça me bouleverse. Il y avait un côté, elle était loin, donc pour nous, c'était rassurant qu'elle nous tienne ce discours. Et d'une certaine manière, elle nous a servi de discours qu'on avait besoin d'entendre. Et elle nous a pas servi sa solitude. Mais quand on voit le drame que c'est de jouer tous les jours au casino, c'était une grande, grande solitude. Et de se faire abuser de cette manière-là, c'est hallucinant, quoi. J'ai beaucoup d'émotions et c'est très étrange parce que je n'étais pas très proche. Je m'accroche à tous les objets que j'ai ramenés d'elle. j'ai une petite casserole toute merdique que j'ai nettoyée à fond. C'est la casserole de ma mère. Je fais cuire mon œuf à la coque avec. La lampe qu'il y a sur le bureau, c'est la lampe de ma mère. Le petit ange, c'est un petit ange de ma mère. Du coup, je vois ce parcours de vie, ça me paraît presque un parcours romanesque, qui me touche beaucoup, hein, qui me touche beaucoup et qui me met incroyablement en alerte avec toutes les personnes âgées qu'il y a autour de moi. Peu de temps après son décès, je tombe sur un copain dans une épicerie, puis je lui dis en 2 mots, et il me dit « Tu peux pas savoir ta mère comme elle vous a protégé. » Il me dit ça. Il me dit « C'est une lady, ta maman. » Parce que lui, il a son beau-père qui est addict au jeu et il vit ça en direct depuis 20 ans. L'enfer que c'est d'avoir quelqu'un dans sa famille qui est addict au jeu. Et le fait qu'elle nous ait caché tout ça, si elle avait une vraie addiction au jeu, elle nous a épargné de beaucoup, beaucoup de choses. Parce que c'est incurable ces trucs-là et c'est du compulsif, et c'est invivable pour la plupart des gens qui... Et il m'a dit 2 choses, donc dans cette épicerie, c'était juste avant Noël. Il me dit non, mais écoute, ta mère, elle te fait un cadeau immense en plus, c'est que t'as un méga film à écrire.
Moi, je vais vous dire, cette petite ville, je n'y mettrai plus jamais les pieds de ma vie. C'est terminé. Mais quand j'y pense, j'ai une espèce d'écœurement parce que forcément, avec le filtre de ce que je viens de vivre, ben dans cette petite ville, parce que c'est tout petit, je vois quoi ? Je vois le casino qui trône en son centre, la mairie à 2 pas, Je vois des pompes funèbres à tous les coins de rue, je vois des agences immobilières à tous les coins de rue, avec des agences immobilières qui affichent « spécialistes du viager ». Dans une petite ville où il n'y a que des curistes et des personnes âgées, à tous les coins de rue, voilà, il y a ça. Il y a des notaires à tous les coins de rue. Et je me dis, on ne connaît qu'une partie de nos proches, si on ne vit pas à côté. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous échapper, vraiment beaucoup. Et je pense que là, ça concerne tout le monde, pour le coup.
C'était La vieille dame et le casino, un reportage signé Anna Benjamin, réalisé par Gilles Blanchard avec un coup de main de Jean-Christophe Francis et diffusé pour la première fois en mai 2024. Merci bien sûr à toutes les personnes qui ont participé. Je précise que nous avons contacté le directeur du casino en question, qui est en réalité le directeur des machines à sous du casino, qui nous a répété ne jamais avoir rencontré la mère de Jérôme et de Sylvie avant d'acheter son appartement en viager, et donc n'avoir eu connaissance de sa vente que par une annonce sur Internet. Il a ajouté que l'estimation du viager a été faite par l'agence. La procédure suit son cours, et l'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, et notre stagiaire, c'est Mina Morel. Thank you.